Vous vous apprêtez à écouter un extrait du prochain épisode de Dans la boîte à gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que.
Et c'est drôle que tu me parles de ça parce que, je sais pas si on peut le dire au micro, mais là, je rentre du Texas. Et au Texas, il s'est passé un truc, j'ai revu John Koscinski pour la première fois depuis 93.
Et donc plus de 30 ans après.
Absolument. Et on est tombés dans les bras l'un de l'autre, on s'est fait la bise... De manière complètement incroyable, parce que John Koscinski, c'était quelqu'un qui était très, très bizarre à l'époque où je l'avais quitté. Et là, j'ai retrouvé quelqu'un qui était aux antipodes de ce qu'il était à l'époque. Donc nous, quand on l'a eu à gérer, c'était très compliqué. Il avait perdu son guidon chez Roberts parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de gestion du bonhomme, pas de son talent. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de, je dirais, de toc. Et... il était très particulier, il avait des problèmes relationnels, jamais il te regardait dans les yeux, il regardait ses chaussures quand il te parlait. Il parlait de lui à la troisième personne, comme notre ami Alain Delon. et vraiment, on avait la certitude qu'on avait un potentiel de champion du monde, et ça c'est clair. Par contre, quelqu'un qui était très dur à gérer, et on a des anecdotes, ouais, on a des anecdotes incroyables, parce que il vivait sur une autre planète, ce pilote. Ce qui est dommage, c'est que il avait tellement envie d'être champion du monde. Et il m'a dit, moi, je viens pas en 250 pour être champion du monde, je viens en 250 pour écrire l'histoire. Je veux gagner toutes les courses. Et la première course, c'était en Australie, à Eastern Creek, sur le circuit à côté de Sydney. Il fait toute la course en tête et dans le dernier tour, à Radal passe et il fit deuxième pour quelques millièmes. Et à partir de ce moment-là, on a su que c'était foutu, quoi. Parce que, il n'aura pas pu écrire l'histoire comme il avait prévu de l'écrire, c'est-à-dire gagner toutes les courses. J'ai dit, mais John, t'as fait deuxième, t'étais le plus vite. T'as pas compris que il était assez près de toi, Arada, et lui, il a quasiment coupé dans la dernière ligne droite, et l'autre le passe sur les droites, et il s'en est voulu. Et à partir de ce moment-là, c'était difficile de le gérer. Et ça a mené jusqu'à la mi-saison où il se retrouve à Assen, il finit troisième, rebelote, il se fait passer dans le dernier tour par Loris Capirossi, alors qu'il aurait pas dû. Donc il se retrouve troisième, mais on était toujours en lice pour être champion du monde. Et là, ça l'a énervé. Il a, dans son tour de rentrer au stand, il s'arrête sous les yeux des caméras devant le grand patron de Suzuki qui était là, Hollande. Il met la moto à fond au point mort jusqu'à ce que le moteur il casse. Il met la moto par terre et il part. Donc là, les Japonais, ils aiment pas qu'on traite leur matériel comme ça. Ils refusent d'aller sur le podium. Ils refusent d'aller à la conférence de presse dans le Grand Prix qui était le Grand Prix Lucky Strike. Et donc là, la décision, elle a été de s'en séparer. Donc, et Lucky Strike et Suzuki, ils me convoquent, ils me disent, on a cassé le contrat de John. La semaine prochaine, c'est le Grand Prix de France. Faut que tu trouves un pilote. Donc, l'aventure et le titre éventuel avec Suzuki, il n'existait plus. Et puis, je me suis retrouvé sur mon pilote leader, que j'ai plus revu, puisqu'il est parti vers d'autres aventures, et que j'ai juste revu 30 ans après, la semaine dernière.
Et c'est génial de savoir qu'il a complètement changé. Et
complètement.
C'est plus tout le même.
Complètement. Et c'était un gars qui avait plein de tocs.
Il y a des souvenirs un peu de faits marquants, parce que je pense que tu en avais des tonnes.
Faits marquants, bah déjà, il jouait de son extrême notoriété et surtout admiration vis-à-vis du stade des Japonais qui ont toujours été en admiration devant les Européens, encore plus les Américains et surtout les grands pilotes américains. Donc moi, je me souviens des discussions. Par exemple, il arrivait, les ingénieurs japonais, ils l'attendaient et débrief, donc il quittait le casque et ils lui disent « Qu'est-ce qu'il y a alors ?» Il dit « Il y a un poisson dans le virage 13 ». Et là, je leur dis, non, notez-le. Ils me regardaient comme ça, les Japonais. J'ai dit, non, notez-le, c'est tout normal. Quelque part, dans son truc, ça voulait dire, il n'y a pas de grippe, ça glisse dans le virage 13. Ou, dans le virage 12, j'ai vu God. J'ai vu Dieu. Ça voulait dire, là, j'ai eu un moment où j'ai failli tomber. Donc, il y avait tout un tas de moments où c'était assez compliqué parce que il jouait de sa notoriété. Il jouait du fait qu'il était dans une position où c'est lui qui avait la main. Dans le relationnel, mais il nous a fait des trucs incroyables, quoi. Il s'est caché parce qu'il voulait que certains membres de l'équipe disparaissent parce qu'il disait que c'était des espions. Il avait aussi un toc avec la propreté. Quel que soit le niveau de l'hôtel, il démontait sa chambre d'hôtel en secouant les draps, en lavant tout pour regarder s'il n'y avait pas de microbes, de poussière ou autre, quoi. C'était quelqu'un de très particulier à gérer et franchement pas facile. Parce que quand on savait le potentiel qu'il avait, quand on savait qu'on pouvait être champion du monde et qu'il fallait gérer tous ces problèmes-là, qui malgré tout, c'était quand même des petits cailloux dans les rouages de la machine, et qui nous ont mené avec toutes ces frasques à ce qu'ils se fassent virer à mi-saison. Maintenant, on en rit à posteriori parce que c'était complètement dingo, quoi, ces trucs-là. Mais sur le coup, quand ils nous ont dit, les gens de chez Suzuki et de Lucky Strike, c'est fini avec John. Pour nous, c'était fini notre rêve d'être champion du monde.
Ce serait intéressant que, la prochaine fois que tu en reparles, que tu le recroises, que tu en reparles avec lui, peut-être que...
Mais j'en ai reparlé.
Ah oui, tu en as parlé.
J'en ai reparlé. T'as
dit quoi?
Et, bah, il a tendance à...
Il ne se plus trop, quoi.
À mouiller ou faire comme si ça ne se souvenait plus trop.
Ouais.
Et moi, il m'a dit, j'aimerais bien bosser avec vous, j'aimerais bien venir en Europe, donc... Mais si jamais j'ai plus de temps, oui, un soir, je l'inviterai à dîner et on en discutera, parce que j'aimerais bien qu'il m'explique quel était ce... Je ne sais même pas s'il pourra m'expliquer, mais en tout cas... au moins qu'on en rit tous les deux maintenant en se disant tu nous as bien fait marronner et puis quel dommage que t'aies pas continué parce que t'avais une voie royale qui était tracée devant toi, quoi. Mais surtout le problème, c'est que cette attitude-là, à la fin de l'année, Suzuki qui ont gagné cette année-là le titre en 500 avec Kevin Schwantz, qui était le Graal, ils ont décidé, ok, la 250 on arrête, on va se focaliser sur la 500 parce que là on se bat par rapport à Honda qui est avec des gros moyens. Yamaha qui investit beaucoup aussi. Donc, il faut qu'on mette toutes nos billes sur le même projet, c'est-à-dire la 500. Donc, ils m'ont dit, c'était sympa ce qu'on a fait en 92-93 ensemble. J'ai perdu le statut team officiel Lucky Strike Suzuki 250. Et là, ils me l'ont dit relativement tard, hein, quasiment au mois de novembre. Je me suis retrouvé sans rien. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on s'est dit, bah, l'aventure, OK, ça a été sympa. Hein. On a fait 3 saisons. On a été au bout de nos rêves. Ce rêve-là, on s'en doutait un petit peu, il serait peut-être pas capable de durer ad vitam aeternam. Et puis, ça a été, quoi. Et puis là, je me suis dit, on va pas abandonner comme ça. Et j'ai rappelé mes copains de chez Honda. Je leur ai dit, il y aura pas une moto à trouver. J'ai essayé de récupérer un petit peu des budgets par-ci, par-là. Mes amis de chez Motul, qui ont toujours répondu présent quand je leur ai demandé, et qui sont encore mes partenaires aujourd'hui en 2024. Et ça, c'est beau aussi, la continuité dans l'amitié, le relationnel professionnel. Et là, on est reparti avec Frédéric Prota et Noël Ferro, qui n'ont pas laissé une empreinte indélébile dans sport moto, mais ça nous a permis d'exister. Mais alors, de Lucky Strike Suzuki à une petite Honda privée avec un petit partenaire Motul, là, ça a été compliqué, mais c'est là qu'on voit que la vie, elle est faite de haut et de bas, et que quand on est en bas, faut serrer les fesses, le porte-monnaie, essayer d'exister, de subsister, de pas disparaître, pour éventuellement rebondir.
Pour plus de contenu exclusif sur les coulisses du podcast, suivez-nous sur Instagram @dansla-boîte-à-gants. Vous retrouverez aussi la version filmée de vos épisodes préférés sur YouTube.